Bonjour, bienvenue à La Voix de la librairie, émission enregistrée à la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec et diffusée sur les ondes de CKIA le mercredi à 15h30. Mon nom est Catherine Doré et en compagnie de mes invités, nous allons parler aujourd'hui de l'obéissance. L'obéissance, c'est une vertu. Enfin, c'est ce qu'on nous a enseigné à la petite école. Du moins, c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux enfants à être obéissants. On s'attend à ce que les enfants obéissent à leurs parents, à leurs enseignants. Par contre, chez un adulte, l'obéissance, ça peut devenir une ennemie. Parce que l'obéissance, c'est aussi l'allié des tyrans et des profiteurs. Alors, doit-on obéir à un ordre que l'on juge indigne? D'ailleurs, est-ce qu'on se donne le droit de questionner un ordre qui nous est donné quand c'est fait par un supérieur? On va prendre un exemple, si vous voulez. Disons que vous êtes un infirmier dans un hôpital et que le patient sous votre garde revient de recevoir son avis de sortie. On vient tout juste de l'asseoir dans une chaise roulante. Il est là, à demi conscient, un peu confus. Et là, on vous ordonne de le sortir sur le trottoir puis de l'y abandonner. Est-ce que vous le feriez? Non, vous croyez? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière dans un hôpital du Haut-Richelieu. L'obéissance à l'autorité, vertu ou lâcheté? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, je vous présente mes invités. Simon Richard, qui va nous présenter la célèbre expérience de 1000 grammes sur l'obéissance. Oscar Moya va nous entretenir de la réflexion d'Anna Arendt sur l'obéissance à partir d'un célèbre procès, celui du criminel nazi Eichmann. Et enfin, Laurence Simard va nous exposer sa théorie sur le néolibéralisme comme rationalité de servitude volontaire. Et en fin d'émission, nous allons terminer sur une bonne note avec une prestation live du groupe Rambling Bastards. Et pour débuter, comme à notre habitude, on va mettre une pièce musicale de Peter Gabriel qui s'intitule « We do what we're told ». Vous excuserez mon anglais. En parenthèse, ça s'appelle « 1000 grams 37 ». Et c'est une réinterprétation qui a été faite par un groupe qui s'appelle Sweat Son Clank. Simon Richard est étudiant en doctorat en astrophysique, au doctorat, pardon, en astrophysique à l'Université Laval. Plusieurs de vous le connaissez sans doute déjà parce que c'est un habitué de notre émission La Voix de la librairie. Et il va nous parler ce soir d'une célèbre expérience qui a été réalisée vers le milieu du siècle dernier. Il s'agit de l'expérience de Milgram. Bonjour Simon.
Allô Catherine.
Tu peux-tu d'abord nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel cette expérience a été réalisée? On est au 20e siècle, on est après la Deuxième Grande Guerre.
Ouais, ben c'est vraiment au début des années 60, c'est 61-62 l'expérience à peu près de Milgram, c'est aux États-Unis en fait. Et puis c'est à peu près au même moment qu'il y a le fameux épisode de l'enlèvement par le Mossad,
ou oui.
L'agence secrète israélienne de Eichmann, ou Eichmann, on m'apprend qu'on doit dire en fait.
Eichmann,
ok, qui est un criminel de guerre nazi. Et puis à ce moment-là, en fait, ça... Ben, Le temps est propre à ça. En fait, on s'interroge beaucoup sur est-ce que l'être humain, s'il est face à une autorité conséquente, peut poser des gestes dont il ne serait pas vraiment responsable, donc il serait amené à faire des gestes qui sont complètement atroces. On pense évidemment dans ce cas-là à l'Holocauste, aux crimes de guerre nazis envers les Juifs et envers une panoplie de sous-classes considérées par les nazis, on s'entend, de personnes en Europe. Et puis Milgram, en fait, lui, c'est une personne en fait qui est un immigré juif en fait aux États-Unis, qui étudie à ce moment-là en fait, qui est assistant professeur à Yale, et puis qui s'interroge beaucoup justement sur les conséquences de l'autorité. Il décide d'inventer une expérience qui est devenue vraiment célèbre.
C'est que lui-même, c'est un juif qui a immigré aux États-Unis, donc un petit peu avant la guerre.
C'est un fils de juif en fait. Donc, ou je sais pas si lui est né en Europe, mais je pense qu'il est né en 1933 à New York, donc ses parents étaient juifs, mais lui, il n'est pas né en Europe directement.
OK.
Mais il est quand même très concerné par justement le fait juif, justement, par l'Holocauste. Et puis, juste pour vous donner un petit exemple, en fait, de comment il interprète un peu ce qui a donné, en fait, la volonté de faire cette expérience-là, dont je vais parler de plus en détail dans quelques secondes. Mm-hmm. Donc, une citation d'un livre de lui, en fait. Avec un souci de rendement comparable à celui d'une usine de pièces détachées, on a construit des chambres à gaz, gardé des camps de la mort, fourni des quotas journaliers de cadavres. Il se peut que des politiques aussi inhumaines aient été conçues par un cerveau unique, mais jamais elles n'auraient été appliquées à une telle échelle s'il ne s'était trouvé autant de gens pour les exécuter sans discuter. L'extermination des Juifs européens par les nazis reste l'exemple extrême d'action plutôt abominable accomplie par des milliers d'individus au nom de l'obéissance. Donc, ça met le ton un peu à l'expérience qui s'en vient. Donc, on s'entend que c'est une question qui est légitime d'être posée, en fait. Est-ce qu'on peut rendre la responsabilité à une personne quand elle est soumise à l'autorité? Puis, bon, Hannah Arendt en a parlé beaucoup dans des livres qui ont fait fracas à l'époque.
Oui. Donc, ça demandait quand l'individu étant soumis à l'autorité, s'il allait nécessairement obéir ou se révolter...
Quelle est la propension à la révolte de l'être humain, en fait? On peut le dire comme ça, en fait.
OK.
Et puis, l'expérience qu'il conçoit est, en tant que telle, fascinante, je trouve. Faut avoir un esprit un peu tordu pour penser à une telle chose, selon moi. En tout cas, j'aurais pas pensé. Je pense que je suis trop naïf dans la vie. Mais bon, Milgram, en fait... fait une espèce de canular, en fait, mais qui n'en est pas un, sous prétexte qu'ils vont étudier, en fait, les méthodes d'apprentissage, les méthodes d'apprentissage, mais à l'aide de punitions. Donc, normalement, il part, en fait, du vieux principe que quand on punit quelqu'un, il va apprendre plus facilement quelque chose. Donc, ça, c'est la base de l'expérience qui est factice, on va l'apprendre.
C'était aussi tout le mouvement en psychologie, l'expérimentation aussi avec les renforcements positifs, négatifs, les punitions, les récompenses, tout le Pavlov. Hein,
c'est un moment assez effervescent dans le milieu de la psychologie sociale, des expériences en psychologie.
Il y avait beaucoup d'expériences de ce type-là.
Oui, je pense que c'est comme c'est l'air du temps. Les années 60, hein, il n'y a pas juste les hippies, les psychologues expérimentaux qui apparaissent aussi. Et puis, expérimentateurs. Et puis, il demande à des gens de venir à l'Université Yale, quand même une université prestigieuse qui est connue à travers le monde, qui a donné des grands scientifiques. Et puis, il leur demande, en fait, de venir passer une étude. Les gens arrivent pour passer l'étude. Ceux qui ont répondu, qui ont accepté de faire l'étude pour Milgram. Ils arrivent et ils sont en même temps qu'une autre personne, qui est un autre candidat, et ils sont reçus par un expérimentateur. l'expérimentateur et un assistant de Milgram qui est en blouson gris scientifique, peut-être même en sarrau, en fait, et puis qui a l'air vraiment d'avoir une autorité morale, donc qui est le scientifique en charge de l'expérience. Ce que la personne ne sait pas quand elle arrive là, c'est que l'autre volontaire avec lui est un comédien qui est aussi un assistant de Milgram. Donc, là, ils se font expliquer l'expérience. Lui ou l'autre vont devoir passer une série de questions et la personne qui n'a pas été choisie comme étant l'élève, donc le moniteur, va devoir infliger des chocs électriques à l'élève lorsqu'il se trompe.
OK. Donc le cobaye, c'est l'expérimentateur, c'est pas le...
C'est le moniteur.
Moniteur.
L'expérimentateur, c'est la figure d'autorité. Donc, le moniteur... Donc, ça peut être lui ou l'autre jusqu'à ce moment-là. Donc, ils font une pige qui est truquée. Donc, sur les deux cartons, c'est écrit « moniteur ». Donc, le comédien pige, il dit « je suis l'élève ». L'autre pige, il dit « bon, je suis moniteur ». Évidemment, il ne mentira pas. Là. Je peux pas croire qu'une personne soit aussi futée que ça. Donc, il se retrouve dans le rôle de moniteur, mais il pense tout de même qu'il aurait pu très bien être l'élève, ce qui renforçait en fait le caractère véridique de l'expérience.
Okay.
Parce qu'il peut penser qu'il aurait pu être à la place de l'autre.
Ouais.
Ce qui rend encore plus les résultats troublants, finalement. Et puis là, ils vont faire une série d'expériences. Donc, là, Milgram en a fait plusieurs variations pour étudier. Je vais en parler des différentes variations qu'il a fait. Donc, mais avant de parler de ça, il y a quand même un truc qui est fascinant pour moi. C'est que, bon, évidemment, toi, Catherine, si je te demandais si tu avais eu à faire le même genre d'expérience, est-ce que tu penses que tu aurais donné la plus grosse charge électrique? Donc, j'avais oublié de le dire, mais il y a 27 étapes. Donc, à chaque fois qu'il y a une erreur, il augmente le niveau d'intensité du choc. Ça passe de 15 volts,
okay.
Ce qui est un choc électrique, bon, banal, en fait, là, jusqu'à 450 volts, qui est un choc électrique qu'on veut vraiment pas recevoir. En fait, un électricien pourrait nous confirmer que 450 volts, c'est vraiment pas agréable à recevoir comme choc.
Est-ce que c'est létal?
Non, mais non.
Ça fait mal.
Ça fait mal, ouais. Ça claque, c'est un bon claquement. Et puis, en fait, comme toi, tu pourrais le penser, ou comme moi, en fait, je le pensais avant d'avoir vraiment lu sur le truc, c'est que on pourrait penser que les gens vont s'arrêter à un certain moment qui n'est pas très éloigné, en fait, du départ. Donc, dès qu'on pense qu'on fait mal à une personne dans un milieu qui est aussi... on n'est pas vraiment payé, on est payé un petit peu par l'expérience, mais pas tellement. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien qui fait en sorte... L'expérimentateur ne nous fouette pas pour qu'on se rende plus loin.
Il n'y a pas de nécessité là, à faire un jet, de faire mal à l'autre comme ça.
Donc,
c'est presque gratuit.
Effectivement. Donc, normalement, on penserait que les gens ne se rendront pas très loin dans ce genre d'expérience-là. Et même quand il a demandé, Milgram, à des psychiatres, en fait, est-ce que les gens, vous pensez, vont se rendre loin? Il demandait à plusieurs psychiatres. La plupart des gens ont dit que le monde vont lâcher à peu près au dixième, qu'environ 150 volts. Et il y a peut-être une ou deux personnes sur 1000 qui se rendront jusqu'aux 450 volts. Des personnes sadiques.
Ça, c'était les prévisions des psychologues.
Et puis, finalement, c'est avéré qu'environ, dans l'expérience de Milgram à l'époque, dans l'expérience de base, il y a environ 65 % des gens qui se rendent jusqu'aux 450 volts.
OK.
Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est 26 personnes sur 40, en fait. Donc, c'est vraiment troublant, en fait, comme expérience. L'expérience a été répétée dans plusieurs universités par la suite et les résultats sont souvent les mêmes, si ce n'est pas plus élevés, en fait. Donc, première étape. Puis là, la première série d'expériences, donc, il a voulu tester, en fait, est-ce que la proximité de l'expérimentateur va avoir une influence sur le résultat? Par exemple, si l'autorité, donc la personne qui contrôle l'expérience, je la vois et elle me regarde donner des chocs à un autre individu, ben est-ce que ça va avoir de l'importance? Mais aussi, est-ce que si je vois la personne à qui je vais donner des chocs, est-ce que ça va avoir de l'importance aussi?
Donc, bonne question.
Donc, au départ, la première série d'expériences, il pouvait pas voir l'élève. L'élève était dans un local contigu, mais il pouvait pas vraiment l'entendre jusqu'à un certain degré. Rendu vraiment très loin dans l'expérience, il pouvait commencer à entendre des claquements sur les murs ou sur le plancher. Donc, c'est le seul avertissement qu'il y avait que la personne avait de la douleur. Ensuite, ils sont rapprochés, donc il a pu commencer à voir l'élève ou à l'entendre. En fait, la deuxième étape, c'est qu'il peut l'entendre crier. Donc, il y avait comme vraiment toute une procédure déjà d'établir à tel voltage, le comédien va crier « Arrêtez, je refuse de consommer l'expérience », et en graduellement. Jusqu'à la toute fin, il répond même plus aux questions et l'expérimentateur lui dit « Pas de réponse est une mauvaise réponse ». Et les gens continuent à administrer les chocs. C'est complètement fou. Et on le voit assez bien aussi dans le documentaire qui a été fait, dont on pourra parler peut-être un petit peu plus tard,
oui,
qui s'appelle « Le jeu de la mort ».
Le jeu de la mort, oui.
Donc, les gens continuent. Ensuite, à la fin, dans cette série d'expériences-là, la dernière expérience que moi, je trouve complètement troublant, en fait, là, c'est que non seulement le moniteur doit infliger des chocs, mais il doit aussi appuyer la main du candidat, de l'élève, sur une plaque de métal pour que l'élève puisse recevoir un choc électrique. Évidemment, le choc électrique est pipé. Il n'y a pas vraiment de choc électrique.
Il n'y en a pas, c'est ça, c'est un comédien toujours.
Oh, il ne fait que réagir en semblant de choc électrique.
Ouais.
Mais il y a quand même des gens rendus à un choc qui est très dangereux. C'est écrit en plus sur le panneau de contrôle où ce qu'on en donne les chocs. Choc très dangereux. Ils vont forcer la main de la personne sur la plaque de métal, ils vont lui infliger un choc.
C'est vraiment
donc, c'est assez rough quand même comme expérience, on s'entend.
Oui.
Là,
oui.
Les gens sont restés aussi très marqués de ça, les gens qui ont fait de l'expérience. Là, il y avait de quoi raconter à leur mari en revenant là,
oui.
le soir. Là.
Il y avait des remords.
Ah oui, extrêmement de remords,
coupable.
Mais aussi le fait qu'on se rende compte que l'être humain, soit ils se sentent lâches, ou bien quand ils se font expliquer après dans l'interview post-expérience, ils se font expliquer que tout le monde a fait comme eux. Là, ça, il y a comme une espèce de
prise de conscience.
Prise de conscience terrible. De, je suis comme tout le monde, mais je suis vraiment pas bon.
Oui.
Il y a personne qui est meilleur que moi, mais c'est pas vraiment un soulagement de savoir ça.
Non,
t'sais.
Tout à fait. Ça laisse place à énormément de dérives ben, politiques, comme on a déjà vu.
Et puis, Graham va encore plus loin que ça. Premièrement, dans l'expérience, il y en a fait 21 en tout, mais je veux dire, mettons, celles qui m'ont le plus intéressé, là, pour pas en parler trop longuement non plus. L'expérience 7, l'expérimentateur sort du local et dirige l'expérience par téléphone. À ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins de gens qui complétaient l'expérience, qui se rendaient jusqu'au bout. Il y en a en fait juste 9 sur 40 qui ont complété. Mais il y a aussi le fait que la plupart des gens qui arrêtaient ou même qui se rendaient jusqu'au bout trichaient pendant...
Ah oui.
Oui. Les gens trichaient pour infliger des chocs moins élevés qu'ils auraient dû, en fait. Parce que l'expérimentateur ne les voyait pas faire.
Ça veut dire que c'est vraiment en rapport avec l'autorité. C'est vraiment la proximité de l'autorité qui compte, là.
Ben, ça fait dire à Milgram, en fait, que les gens, ce qui va pousser à la désobéissance ou à l'obéissance, c'est le fait qu'on puisse gérer ou pas la tension qui monte durant l'expérience. Cette tension-là, il y a plusieurs soupapes pour l'évacuer. Puis une de ces soupapes-là, pour réduire la tension puis sentir un peu mieux dans ce qu'on est en train de faire, c'est tricher. Tricher, ça fait diminuer la tension de l'élève. Tu sais, c'est... Et rire, oui, c'est ça, rire. Les gens rient frénétiquement comme un partic nerveux, en fait, commencent à rire pour enlever de la tension, pour un peu se... C'est pas vraiment qu'ils trouvent ça drôle, je pense. C'est plus qu'ils sont pas capables de s'empêcher de rire parce qu'ils sont trop nerveux.
Est-ce qu'il y a des moniteurs qui riaient durant...
Oui, c'est même presque une majorité, en fait, des moniteurs qui finissent par, à un moment donné ou à un autre, par rire durant au moment où ils envoient des chocs. Donc, c'est vraiment comme une espèce de soupape.
Ouais.
Ils rient de nervosité, de trop de tension, en fait, puis ils sont pas capables de s'empêcher de rire.
Ouais.
Ça, on le voit encore une fois très, très bien dans le documentaire.
Le jeu de la mort, comme on va en parler tout à l'heure. C'est une expérience qu'ils ont refait récemment.
À l'expérience 8, il a testé si les cas féminins seraient différents des cas masculins. Donc, à la place de prendre 40 sujets masculins, il a pris 40 sujets féminins. Et puis, on a aperçu en fait que même si la rumeur dit que les femmes sont plus sensibles, ben malgré tout, ils sont rendus quand même dans la même proportion jusqu'au bout. Donc, ça n'a rien changé, le cas de genre, en fait, le changement de genre du sujet. À l'expérience 12, c'est quand même assez drôle. L'élève veut recevoir des chocs. Donc, c'est lui qui demande à recevoir des chocs quand l'expérimentateur...
décide d'arrêter.
L'élève veut continuer à recevoir des chocs. Et puis, ben là, le monde se rend compte que, ben en fait, ils ne soumettent pas à l'autorité de l'élève, finalement. L'élève n'a pas d'autorité sur eux. Ils vont arrêter l'expérience bien avant la fin, dans la plupart des cas.
D'accord.
Si l'expérimentateur est quelqu'un d'ordinaire, donc par exemple, à la place d'être reçu au moment du commencement de l'expérience par une personne avec un sarrau ou en tout cas une apparence de scientifique, c'est une autre personne qui est pigée au sort, encore une fois truquée, mais qui a l'air d'être une personne ordinaire qui est venue comme toi volontairement faire l'expérience, mais à ce moment-là, le monde se rend vraiment pas jusqu'au bout. En fait, il y a juste 4 personnes sur 20 qui sont rendues jusqu'au bout. Donc, quand la personne n'a pas figure d'autorité,
ça fonctionne pas.
Ouais, quand elle est moins apparentée, disons à l'institution universitaire dans le cas de l'expérience de Milgram, ça peut être autre chose dans d'autres expériences de toute la même forme. Mais dans ce cas-là, les gens se rendent en grande majorité pas au bout. Donc, c'est quand même, bon, au moins, on voit que notre voisin peut pas avoir tant d'autorité que ça, à moins que ce soit un scientifique imminent.
Oui.
C'est dangereux, ça. Si votre voisin est un scientifique et qu'il vous demande de tondre la pelouse, refusez. C'est pas une vraie preuve d'autorité.
Et c'est Simon qui parle ici.
Moi, j'abuse jamais de mon autorité. J'en abuse jamais.
Est-ce que tu as des voisins?
J'ai des voisins, mais ils savent pas que je suis scientifique. Je leur parle très rarement là-dessus. expérience 15 sont soumis à deux autorités, en fait. Donc, l'élève et l'expérimentateur sont, en fait, deux personnes qui sont là pour accueillir le sujet. Donc, ils ont tous deux l'air la personne qui va recevoir les chocs est aussi partie prenante de l'expérience. Donc, elle a une figure d'autorité aussi. Donc, elle a dit de continuer, l'expérimentateur dit d'arrêter, et les gens arrêtent la plupart du temps en attendant l'expérimentateur. Donc, d'accord, quand il y a deux autorités qui se contredisent, les gens vont plus aller vers leur sens éthique ou leur morale, en fait.
OK, là, ils vont s'occuper.
Ouais, ils ont plus de facilité, en tout cas, à désobéir. Ils vont continuer un certain temps. Il y en a qui se rendent jusqu'au bout, mais il y en a beaucoup
c'est
moins.
C'est intéressant, ça. Ouais. OK.
Ils ont fait aussi une expérience 17. C'est trois personnes qui passent le test. Donc, ce sont trois personnes qui font figure de moniteur, qui font chacun une petite tâche. Et les deux autres, ils sont aussi des comédiens, se rebellent avant l'autre. Ils veulent voir si, en fait, l'influence des pairs va donner le surplus de tension nécessaire à ce que la personne qui est le cobaye, finalement, arrête, se rebelle elle aussi. Et ils se rendent compte que dans la majorité, en fait, des cas, après la première personne qui se rebelle, mais après la deuxième personne, qu'elles sont rendues tout seules devant le fait d'un des chocs, là, les gens arrêtent en grande majorité.
Et les raisons pour lesquelles les gens obéissent à ce point-là dans l'expérience de Milgram, est-ce que c'est uniquement l'autorité? Comment ils ont expliqué ça?
Ben, en fait, l'expérience de Milgram vise vraiment à isoler le facteur autorité. Donc, il aurait pu mettre d'autres choses, disons, impliquer d'autres facteurs, disons, dans l'expérience, mais ça mesure surtout l'autorité. Ce que Milgram dit, en fait, c'est pourquoi, en fait, on est tant, pas vraiment lâche, parce que tout le monde l'est. Le fait d'être lâche, c'est d'être différent des autres, mais là, apparemment que la majorité des gens sont lâches, ou pleutres, en tout cas. Mm. C'est que la société dans laquelle on vit, en fait, donc la société qui est très hiérarchisée dans laquelle on vit, ben fait qu'on c'est enraciné en nous. En fait, Milgram dit que c'est pas vraiment inné, mais c'est un peu comme le langage, on l'apprend assez rapidement.
On apprend à obéir quand on est enfant.
Juste le système familial, le système aussi écolier, scolaire en fait, nous imbrique un peu ça dans la tête, que l'autorité c'est important, ou même juste la télévision, tu sais, les médecins, il y a vraiment beaucoup de facteurs extérieurs qui finissent par engendrer cette espèce de soumission-là un peu inconsciente en fait à l'autorité. Et puis, il y a aussi le fait aussi qu'on ne pense pas souvent, mais dans un système, par exemple, on penserait à un système bureaucratique hiérarchisé où on a tous affaire à une autorité à un moment donné, tout le monde a un patron. Mm-hmm. Mais la soumission à l'autorité est souvent reliée qu'à une récompense. Donc, la récompense, en fait, c'est un peu comme Pavlovien, en fait. Là, la récompense qu'on reçoit tout le temps, en fait, en soumettant à l'autorité, finit par renforcer notre habitude à obéir à
l'autorité, évidemment.
Et le pire dans tout ça, c'est le fameux système de promotion, en fait, quand, par exemple, dans un système comme le bureau. La promotion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle renforce la hiérarchie. Mais en plus, elle nous fait monter dans cette hiérarchie-là, donc on se sent encore plus faisant partie du système, puis ça renforce encore plus notre dépendance à l'autorité, en quelque sorte.
Donc, il aurait fallu faire ce test-là auprès de gens qui ne sont pas dans un système hiérarchisé comme le nôtre pour pouvoir l'affirmer. Ils ne l'ont pas vérifié.
Il aurait pu vérifier, par exemple, c'est intéressant, en fait, c'est une bonne idée. Il aurait pu vérifier, par exemple, avec des gens, je sais pas, des gens, par exemple, c'est dur de créer un échantillon là, dans ce cas-là, mais trouver 40 personnes qui ont vécu en dehors de tout contact avec la société pendant les 40 dernières années, par exemple. Bon, ça se fait, mais
je parle à d'autres traditions, d'autres populations.
Ah oui, ou tout simplement, oui, aller voir, par exemple,
qui vivent plus dans
des cultures qui n'ont peut-être pas la même...
Des cultures autochtones, ici.
Exactement, ça pourrait être aussi un autre moyen, en fait. Je pense que ça mesurait d'autres facteurs, mais peut-être pas le facteur dont on parlait, qui est la hiérarchisation, en fait, de notre société. Il y a un truc que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que quand après les expériences, ils ont demandé aux gens: Si vous aviez pu choisir quel choc vous auriez reçu si vous aviez vous-même passé l'expérience, jusqu'où vous seriez rendu? Et la plupart des gens répondaient un choc qui était fait inférieur, en fait, à celui qu'ils ont administré.
D'accord.
Donc les gens sont prêts à donner un choc vraiment plus grand
que ce qu'ils seraient prêts à recevoir.
Oui, exactement. Donc, le vieil adage « fais à autrui ce que tu aimerais recevoir toi-même », bof, il ne tient pas tellement.
Ça ne fonctionne pas tellement.
Pas trop.
David, est-ce que tu avais des chiffres à rajouter?
J'avais un petit commentaire sur les prévisions, en fait, des personnes consultées sur leur point de rupture. Et puis, les psychiatres, les étudiants et les adultes qui ont été consultés, 100% de tous ces gens-là ont prédit qu'il y aurait un taux inévitable de désobéissance. Puis, les chiffres ne varient pas tellement. Là. C'est entre 8,20 et 9,15. Pardon, je ne parlais pas dans le micro. Donc, pour ce qui est considéré comme un choc fort, c'était la limite prévue à 100% par tous les intervenants. Et puis, là, on voit qu'on a dépassé ça hautement.
Il va falloir conclure. Il nous reste une minute. Ah, okay. Je m'excuse.
Ah, je vais conclure.
Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion?
Je vais conclure, en fait, avec une petite citation de Milgram. En fait, je vais finir avec ça. Donc, c'est, en fait, pas de Milgram, mais d'une personne qui parle un peu de l'expérience de Milgram, qui est un spécialiste des SS, en fait. Donc,
ah bon?
Spécialiste.
Qui a étudié la mentalité des SS?
Ouais, puis qui a interviewé beaucoup d'anciens SS, tout ça. Donc, il connaît assez bien le pattern nazi, disons.
Oui.
Si on peut dire ça comme ça, c'est pas vraiment très français ce que je viens de dire, mais bon. Milgram peut identifier l'apparition d'un besoin de dévaluer la victime. On reconnaît la même tendance chez... il nomme des noms de personnes qu'il a interviewées. Tout aussi fondamental pour une appréciation de l'attitude de rouage impuissant. Utilisée comme défense morale fut la constatation que les sujets de Milgram lui déclarèrent avoir été convaincus que ce qu'on leur demandait de faire était mal et que cette pensée les aidait à se disculper. Mais leur vertu était sans effet puisqu'ils ne purent se décider à défier l'autorité. Cette constatation nous rappelle le clivage complet d'un homme, comme blablabla, membre de l'ASS, qui réussit par la suite à ressentir une grande indignation contre ce qu'il avait eu à faire. L'expérience de Milgram a exposé avec soin la propension trop humaine au conformisme et à l'obéissance à l'autorité du groupe. Ses travaux mettent également en évidence quelques-unes des défenses du moi utilisées comme autant de justifications par les sujets moyens. On les retrouve aussi chez les SS. Par exemple, « Je ne faisais qu'accomplir mon devoir ».
Voilà. Attention au devoir. Tu nous donnes les titres de deux...
Oui, je vous propose fortement la lecture de Stanley Milgram, « Soumission à l'autorité », publié chez Kalman Levy, ainsi que « Soumissions et idéologies » par Jean-Léon Beauvois chez Pouf. Et allez voir « Le jeu de la mort ».
Merci David, merci Simon. On revient dans 3 minutes.
We'll be right back.
Alors, c'était la pièce Conspiration de Michel Magne, un compositeur français. Et ça nous met tout à fait dans l'ambiance de notre prochain sujet. Comme Simon nous expliquait tout à l'heure, pendant que Stanley Milgram réalisait son expérience aux États-Unis, donc sur la soumission à l'autorité, on est entre 1960 et 1963, au même moment, Hannah Arendt, elle, se trouvait à Jérusalem. Elle était envoyée par le New Yorker afin de suivre sur place le célèbre procès du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann. Alors, la défense d'Eichmann reposait justement sur le thème « J'ai obéi aux ordres ». J'ai pas pris la décision de faire exécuter ces gens-là. Moi, j'ai exécuté des ordres qui ont fait exécuter des gens. Alors, suite à ce procès, Hannah Arendt a écrit plusieurs articles qui ont paru dans le New Yorker sur cette thèse de la défense d'avoir obéi aux ordres. Et elle a ensuite publié un livre qui s'appelle « Le procès de Adolf Eichmann ». Et pour nous parler donc de cette réflexion de Hannah Arendt, j'accueille avec moi Oscar Moya, qui est professeur de philosophie au Cégep Garneau. Bonjour Oscar.
Bonjour.
Avant de parler de l'article de Hannah Arendt, peut-être qu'il serait bien utile de définir quelques concepts peut-être préalables à cette réflexion.
Oui, en fait, des concepts qui vont nous permettre de comprendre les enjeux du procès aussi. Mais de manière plus générale, la pensée de Hannah Arendt, bien sûr. Alors, dans son livre Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt explique, disons, ce procès, elle nous le présente. Mais avant de parler de cela, nous allons passer par Kant.
Par Kant.
Parce que je pense en fait qu'il est absolument essentiel de pouvoir définir ce que un moderne doit faire, quelles sont les responsabilités, les devoirs de quelqu'un qui vit après les Lumières, n'est-ce pas ? Nous avons reçu cet héritage des Lumières, héritage humaniste. Hein, que signifie cet héritage humaniste? Parce qu'on va en parler dans quelques secondes, de cet héritage. Et pour ça, en fait, on va donc évoquer Emmanuel Kant. Alors, première chose, Kant insiste sur le fait que nous avons tous une conscience individuelle du mal. Une conscience, nous sommes conscients de ce qui est mal. Hein. Nous savons distinguer le bien du mal. Nous avons, enfin, pour résumer un peu les choses, pour Kant, nous avons une conscience morale. Hein. Le terme technique qu'il utilise pour parler de cette conscience morale, ou de, disons, de ce qui nous permet d'avoir une conscience morale, c'est ce que Kant appelle l'impératif catégorique. Bon. Alors, évidemment, à quoi sert cet impératif catégorique? Simplement à savoir, en fait, si nous faisons le bien ou non. Par exemple, Kant dit, si nous tuons une personne, nous comprenons que c'est mal, parce que si ce geste que nous posons devient universel, c'est-à-dire s'il s'universalise, si nous le faisons à l'égard de l'humanité, évidemment l'humanité disparaît et moi-même je disparais. Donc c'est un acte insensé. Hein. Notre raison, ce qu'il appelle la raison pratique, nous fait comprendre que ces choses-là ne se font pas. Hein. Et ça c'est universel en fait. Ça vient avec, disons, cette capacité que nous avons à raisonner.
Alors, si je comprends bien, à partir du moment où on est capable de distinguer tel acte est mal, on devient responsable du mal.
Absolument. Nous sommes
C'est lié à la question de la responsabilité.
Et d'abord à la question de la liberté, parce que nous sommes libres. Nous avons le choix, enfin, contrairement à l'animal qui est déterminé, en fait, par ses instincts, et donc qui fait toujours le bien, d'une certaine façon, entre guillemets, l'être humain a cette capacité, en fait, d'agir de manière libre. Mais ce n'est pas un anything goes, comme on dit, c'est pas, ça va pas dans tous les sens. Nous avons quand même cette capacité, en fait, de diriger notre action. Nous avons cette capacité de savoir, de distinguer, en fait, dans les actions, celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises. Hein, par ce principe d'universalisation dont on parlait tantôt.
Oui.
En fait, hein, c'est comme ça, par exemple, qui dit que le mensonge est aussi, disons, quelque chose de mauvais, parce que si nous mentons, évidemment, si tout le monde ment, évidemment, nous ne parlons plus. Autrement dit, il n'y a plus possibilité de mentir. Oui. Donc le mensonge est, au fond, tout à fait inadéquat. Il se contredit lui-même.
Et normalement, on s'en rend compte quand on ment.
Absolument. Donc, nous avons avons reçu donc de Kant cet héritage qui nous dit que nous devons donc obéir à l'impératif catégorique ou à la loi morale, en fait, hein, parce qu'il est rationnel de le faire. Si nous réfléchissons le moindrement, nous allons voir où est la faute, hein, où sont les fautes, qu'est-ce que nous faisons de mal. Hein? Il s'agit simplement d'utiliser sa raison. Oui. Il ne s'agit pas d'aller chercher non plus une raison, surdimensionnée. Il s'agit en fait de quelque chose de tout à fait ordinaire. Okay? Donc, à cela, il faut rajouter aussi, n'est-ce pas, une certaine réflexion. Parce que Kant ne s'est pas simplement intéressé à des dimensions morales. Ici, c'est l'individu face à sa propre conscience.
Oui.
Mais il parle aussi, en fait, d'une certaine dimension politique. Et il faut savoir, en fait, que Kant a une influence énorme sur Hannah Arendt.
Oui,
sur cette question
sur sa pensée politique.
Alors, donc, évidemment, nous ne pourrons pas représenter tout, mais nous allons juste parler de réponse à la question qu'est-ce que les lumières, hein, qui est un court texte de Kant qui se trouve d'ailleurs sur Internet. On peut aller chercher. Ce que dit Kant dans ce texte qui est absolument, c'est très intéressant. On devrait relire ce texte.
Oui, je suis allée le lire, moi, hier, et j'ai trouvé ça effectivement très intéressant.
Alors, il donne un sens à la question de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire d'être des êtres, des hommes qui vivons à l'époque des lumières?
Avec la notion de liberté, avec la notion de raison.
Tout à fait.
De raison. Que
c'est? Oui, tout à fait. Alors, il dit, les lumières, dit-il, c'est la sortie de l'homme de l'état de tutelle où il était disons plongé auparavant. Hein? Il y avait des systèmes politiques dans lesquels enfin les hommes se faisaient gouverner sans avoir besoin de penser. Et évidemment, justement, on voulait pas qu'ils pensent. Les lumières, en fait, voilà, c'est le fait que nous devons, nous pouvons, et nous, évidemment, Kant rajoute, nous devons penser par nous-mêmes, s'appeler Aude, et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà ce que c'est que les lumières. Ouais. C'est les hommes des Lumières ont ce courage, c'est pas, de penser.
C'est une exigence.
C'est une exigence, voilà. Oui. Il va même jusqu'à dire, en fait, évidemment, puisque c'est une émission sur l'obéissance, il va même dire, oui, bien sûr, il faut obéir. Dans une société, il faut obéir. Mais il faut aussi critiquer. Et c'est un devoir. Ben, la critique doit être scientifique, dit Kant. Elle doit être faite non pas en même temps en fait qu'on fait son devoir, c'est-à-dire qu'on participe, par exemple, un militaire qui est dans l'armée, il ne se paie, il va le faire au moment où il change de chapeau, d'uniforme, il n'est plus un militaire. Il peut réfléchir à l'armée. Il peut même la critiquer, si cette critique est scientifique, dit Kant.
Mais là, ce que nous dit Kant, c'est que tout le monde est supposé être capable de penser par soi-même.
Voilà.
Pas seulement les gens qui sont instruits tout le monde.
Tout à fait. Et Kant dit, bon, évidemment, il voit, il sait que tout le monde ne le fait pas. Il dit, pourquoi on ne le fait pas? Il dit, à cause de la paresse, la lâcheté, dit-il. Ah. Paresse et lâcheté. Bon. Alors, évidemment, voilà, en fait, disons, ce qui est...
préalable.
Le préalable. Oui.
À la pensée de Hannah Arendt.
Oui, ben, bien sûr. Enfin, on s'attend donc à voir un homme, Eichmann, qu'on vient d'aller chercher en Argentine.
Oui.
On l'amène à Jérusalem, on va le juger. Et évidemment, on va l'imputer d'une faute, d'une faute grave. C'est un moderne, quelqu'un qui sait où est le mal, où est le bien. Il est capable, donc c'est certainement un monstre.
Oui.
C'est sûrement un monstre. Et
c'est qu'il n'a pas le droit de ne pas réfléchir
tout
par lui-même.
Voilà.
Alors qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé, il n'est pas, oui.
Bon, alors. Hannah Arendt a participé à ce procès et a écrit une série d'articles qui ont été publiés dans le New Yorker.
En 1963, si je ne m'abuse.
Oui, puis qui ont été par la suite refondus en un texte qui d'abord s'intitulait « Eichmann à Jérusalem, La banalité du mal.
La banalité du mal.
Ou la banalité du mal. Finalement, en fait, le titre est resté Eichmann à Jérusalem. Alors, si vous voulez relire ce texte qui est absolument magnifique. Alors,
on retrouve donc la réflexion de Hannah Arendt suite au procès
sur le
de
procès
Eichmann,
Eichmann.
Où lui nous dit, j'ai obéi aux ordres, je n'ai pas réfléchi par
voilà,
moi-même.
Voilà. Alors, on s'attend à ce que Hannah Arendt présente donc, parce que il faut dire, en fait, qu'Hannah Arendt, avant ce procès, elle avait écrit un certain nombre de choses où elle parlait en fait de l'Holocauste et elle l'associait à ce qu'il appelait le mal radical. Elle disait en fait, dans notre civilisation, donc le mal le plus extrême, le mal absolu, ben, c'est l'Holocauste. Hein, l'extermination des Juifs, c'est la chose la pire que l'humanité a fait dans toute son histoire. Mmh. C'est le mal pur. Donc, on s'attend à ce que donc cet homme-là soit le représentant, l'incarnation de ce mal, de ce mal radical. Mmh. Or, Hannah Arendt voit en Eichmann autre chose. Un homme un peu ordinaire. En fait, un vulgaire fonctionnaire. Le type répond à des questions. Il dit, écoutez, on m'a donné cet ordre-ci, je devais faire ceci. À chaque fois, il avait une explication, on pourrait dire, technicienne, technique.
Oui. Mais c'est pas quelqu'un qui a tiré directement sur
non,
les
non,
gens.
Non. Alors, c'est
quelqu'un
vrai.
Qui avait un poste de fonctionnaire. C'était quelqu'un qui était dans un petit bureau.
Il s'occupait, en fait, de logistique du transport. Au sens moderne. Il s'occupait, en fait, de la logistique des wagons qui devaient mener les Juifs.
Les prisonniers dans les camps de la mort.
Ah, dans les camps de la mort.
Ouais.
Et donc, il a été très efficace. Mais en fait, ce qu'il nous dit, écoutez, on me demandait d'être efficace. Puis à la fin, en fait, on n'arrêtait pas. J'ai travaillé tout le temps pour être efficace. Et évidemment, je recevais ses ordres. Je n'étais qu'un fonctionnaire.
Ouais.
Voilà. Disait-il, j'ai agi par devoir. Alors, il se trompait quand il disait ça. Il a évoqué Kant. Je n'ai fait que mon devoir. Alors, Kant, évidemment, il sépare. On disait tantôt, on avait parlé tantôt de l'obéissance au poste, puis aussi la capacité de réfléchir. Kant il distinguait agir conformément au devoir de agir par devoir. Ah. Agir conformément au devoir, c'était obéir aux ordres.
Oui.
Agir par devoir, c'était agir conformément à l'impératif,
à sa conscience.
À sa conscience.
Oui.
Alors évidemment, il ne faisait pas cette distinction-là. Mais enfin, toujours est-il que Hannah Arendt ne voyait pas là, disons, de la mauvaise foi. Et il voyait plutôt un personnage ordinaire.
Ouais.
Voilà, un type tout à fait banal. Tout à fait, tellement banal qu'elle s'est dit, écoutez, voilà, je cherchais, en fait, un monstre et je n'ai trouvé qu'une simple banalité.
Mais c'est comme si elle avalisait la défense de Eichmann à ce moment-là. C'est-à-dire, comme si elle disait, il dit qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres, et en fait, c'est vrai, il n'a fait qu'obéir aux ordres, et toute autre personne qui se serait trouvée à sa place aurait fait la même chose.
C'est ce qu'on a compris.
C'est ce qu'on a compris.
C'est ce qu'on a attiré comme... c'est une première. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de problèmes avec ça. Elle a perdu ses amis. Enfin, il y a un film, d'ailleurs, qui raconte toute cette saga.
Histoire,
ouais. En réalité, elle chercher davantage à donner une explication politique, ou on pourrait dire sociopolitique aujourd'hui. Elle essayait de comprendre comment se faisait-il qu'en pleine... qu'après les Lumières, et dans un pays où les universités sont... à leur apogée.
Oui.
Où la pensée...
L'Allemagne en Europe, la philosophie allemande, la pensée allemande.
Tout à fait. Dans les années... au tournant du siècle, donc...
20-30, oui.
Tout à fait. C'est... Comment se fait-il, donc, qu'un homme... Puis d'ailleurs, un homme instruit, quand même. C'était pas un imbécile. C'était quelqu'un, en fait, qui avait quand même un certain... Qui savait comment faire son boulot. Donc, il avait étudié. Comment se fait-il que ce type-là avait commis de telles atrocités? Alors, évidemment, la réponse pour elle, c'est... Elle y voit la faillite de la pensée humaniste.
Oui.
La faillite de la modernité, en fait. Tout ce projet moderne qui nous a rendus, enfin, capables d'agir par nous-mêmes, qui nous a permis, enfin, d'avoir une conscience de ce que nous sommes, qui nous a permis d'avoir une conscience morale. Évidemment, tout ça semble être problématique. Mais pourquoi?
Oui.
Hein?
Mais c'est qu'à un moment donné, c'est comme si le système avait pris le dessus sur la personne.
Oui, en fait, elle y voit la perte de tout repère éthique et politique. Hein? Tout repère éthique et politique. Tout repère éthique et tout repère, même, on pourrait même dire, anthropologique. Cet homme-là ne savait pas ce que c'est qu'un être humain. Mm. Traiter un être humain de cette façon-là, c'est ne pas savoir ce qu'est un être humain.
Oui.
C'est pas, ce n'est pas savoir, ne pas faire une distinction très claire entre le bien et le mal.
Oui.
Ne pas savoir, en fait, comment on obéit aux ordres, à quel moment on obéit aux ordres, à quel moment on n'obéit pas aux ordres. Hein? Alors, tout ça, en fait, l'étonne. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, que, en fait.
Mais c'est un échec de l'éducation.
Échec, oui.
Parce qu'on ne nous apprend pas, on ne nous apprend pas à obéir ou à désobéir,
tout
en
fait.
On nous apprend à obéir, pas à désobéir.
On nous apprend, on nous apprend toutes sortes de choses, bien sûr, mais Anna Arendt semble voir peut-être pas nécessairement les bonnes choses. Peut-être pas nécessairement les bonnes choses. Mais surtout, en fait, elle met l'emphase sur le totalitarisme. C'est quelque chose, en fait, évidemment, on ne rentrera pas dans l'analyse de ce concept qui est donc un concept extrêmement complexe chez Anna Arendt. Mais en fait, on pourrait parler ici de l'efficacité du système administratif. Comment se fait-il, en fait, qu'un système administratif, puisse être aussi efficace?
Oui.
Au point, en fait, de rendre une personne tout à fait ordinaire, même un bon père de famille.
Oui. Éduquée, instruite, intelligente.
Comment peut-elle transformer à l'un des plus, en quelqu'un qui participe à l'un des, à l'une
des
barbaries,
pires ouais.
les pires barbaries de l'humanité? Alors évidemment, on peut toujours parler de raison instrumentale. Et elle n'est pas celle en fait qui développe de fond en large cette idée, mais il y a un peu de ça. Oui. C'est-à-dire cette recherche de l'efficacité à tout prix, oui. ce zèle du fonctionnel, oui. du fonctionnaire.
L'individu devient un rouage dans un vaste système qui n'est plus contrôlé par personne.
Oui, tout à fait, exactement. Tout ça en fait arrive à faire en sorte que les gens perdent conscience de leur pensée et de leur capacité de penser. C'est pas... Au fond, c'est ce qui amène les hommes à ne plus être des hommes, c'est-à-dire de ne plus être capable de réfléchir, d'avoir une conscience.
Dans le fond, ce que Anna Arendt a essayé de nous dire, c'est de nous lancer un avertissement, à dire attention à ce qu'on a mis en place comme société. Il y a un danger là-dedans, il y a un danger où on perd l'individu, l'individu ne réfléchit plus
absolument.
Par lui-même.
Absolument, absolument. Au fond, elle semble dire, voilà un système, il n'y a pas un Eichmann, il va en avoir certainement d'autres. Ce système, enfin, ce qui nous interpelle là, c'est pourquoi, en fait, pourquoi notre civilisation est-elle arrivée à produire de telles atrocités d'une manière aussi efficace, quoi. Et alors, voilà le fond de...
Mais la réponse ne serait pas justement
l'analyse.
Dans la question de l'autorité? Dans la question du respect de l'autorité?
C'est un peu plus complexe. On arrête... Parce que l'autorité peut être définie peut-être l'obéissance ou la désobéissance. Il s'agit de penser, en fait. Il s'agit d'être pensé par soi-même, comme disait Kant. Être capable, en fait, de ne pas toujours s'en remettre à la tutelle des autres, être capable de réfléchir, hein, être capable de se retirer en fait du système dans lequel on est plongé et dire qu'est-ce que je fais là, hein, est-ce que je suis encore un être humain, est-ce que j'ai encore ma conscience, est-ce que je pense encore. Alors voilà, penser, c'est une tâche, une obligation, nous dit Anna Arendt. Je fais juste un petit retour à l'expérience de Milgram.
Oui.
Parce que l'expérience de Milgram montre, au fond, que d'une certaine façon, l'esprit de l'analyse d'Anna Arendt était juste. C'est-à-dire, l'expérience de Milgram nous amène à montrer, elle nous montre que des gens tout à fait ordinaires,
peuvent commettre...
à divers moments de l'histoire, parce qu'évidemment, c'est une expérience qui a eu lieu dans les années 60.
Oui.
Et qui montrait, en fait, je pense que c'est 60% des gens qui se rendaient
jusqu'à... Oui, c'est ce que Simon nous a dit tout à l'heure.
60% des gens qui se rendaient, c'est effarant.
Oui.
Et évidemment, je pense qu'on l'a même fait en France à la télévision.
Oui.
Ça s'appelait Le jeu de la mort.
Récemment, en 2009.
Quelque chose de très, très semblable.
Oui, un film qu'on vous recommande, effectivement. C'est un plateau de télévision où on organise un quiz télévisé où, effectivement, on doit donner des chocs électriques, exactement l'expérience de Milgram. Et les chiffres ont été encore plus élevés que dans le cas de Milgram.
Tout à fait.
Et c'était des doses létales, là. C'était des doses mortelles.
Absolument, oui, oui. Donc, et puis, les gens sortaient donc comme si dans l'été, de cette expérience-là. Alors, c'est obéissance à l'autorité. Et il faut dire l'autorité scientifique. Parce que dans le cas de Milgram, c'était un scientifique qui menait l'expérience.
Oui.
Et ça joue, en fait, dans les mythes contemporains, dans les mythes modernes. Cette autorité de la science, comme si la science, en fait, ne pouvait que nous apporter du bien. Enfin, oui. comme
ça
si
fait appel à des croyances qui étaient assez ancrées.
Absolument.
Mais dans le cas du jeu de la mort en 2009, c'est une animatrice. C'est une animatrice de télévision qui représente cette autorité.
Je pense que c'était une présentatrice météo.
Oui.
Météo. Alors,
c'est quand même extraordinaire.
Ils ont du pouvoir quand même.
On n'est pas là,
présentatrice. Oui, mais en fait, il y a toute cette, toute cette ambiance.
Oui, il y avait le public en salle
qui met de la pression. Et l'efficacité. C'était un jeu dans lequel donc il fallait aller au bout.
Oui. Mais j'aimerais savoir comment, pour revenir à l'obéissance, comment Hannah Arendt traite la question de l'obéissance? Est-ce qu'elle nous dit qu'il faut désobéir? Est-ce qu'elle nous dit... Parce que quand on est dans un système hiérarchique face à l'autorité, c'est pas évident là, de se rebeller.
Alors, bon, la question revient en fait si elle est pour ou contre la désobéissance. On a dit, en fait, ça dépend des cas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit sur la désobéissance. Parce que, bon, l'obéissance... écoutez, obéir, c'est obéir. Hein. Ça ne prend pas 10 000 formes. Et la désobéissance, par contre, elle peut avoir des formes multiples. Quelle forme de désobéissance politique? J'entends ici désobéissance politique, voyait-elle. Alors, elle n'était pas une partisane de la révolution. Hein. Elle voyait pas au fond des grandes désobéissances sociales et tout.
Oui. Des révoltes.
Mais elle parlait en fait d'une sorte de désobéissance passive, hein. Le refus de participer, par exemple. Hein, on nous invite à faire ceci ou cela. On nous oblige de par nos fonctions à faire ceci. On refuse. On refuse de faire.
Mais on peut pas toujours refuser.
Ah non, bien sûr, bien sûr. Mais au fond. Le nœud du problème, c'est de penser, en fait, à quel moment est-il plus efficace de refuser de participer, sans que ce soit, au fond, disons, quelque chose qui puisse nous porter tort, et porter tort, enfin, à la cause. Hein. Il s'agit, en fait, d'avoir une pensée analytique. Et elle pense, en fait, que c'est beaucoup plus efficace que toute autre révolution. C'est intéressant quand même. À une époque, par exemple, on nous invite à faire ça. Même l'écologisme dit, la pensée écologique nous invite à ça. Elle dit, écoutez, changer tout le système, peut-être pas nécessairement la meilleure chose, mais prendre conscience de ce que nous faisons, voilà en fait, en soi, une révolution.
Donc, s'exercer à penser par soi-même et à déterminer par soi-même est-ce que je suis dans un accord, sans tomber dans des valeurs de bien ou de mal, est-ce que je suis en accord avec ce que je fais et avec ce qu'on me demande de faire ou si je ne suis pas en accord?
C'est ça.
Se poser la question.
Être un véritable moderne, n'est-ce pas? Avoir le courage de se servir de son propre entendement. Voilà, en fait, certainement ce que probablement elle aurait dit. Hein? Penser. Une chose... disons, qui est peut-être plus difficile qu'on le pense, mais que nous avons le devoir de faire.
Merci beaucoup, Oscar Moya, d'être venu ce soir nous parler de la pensée d'Hannah Arendt. Il me reste quelques minutes. J'aimerais ça, avant de présenter notre prochaine invitée, de vous parler un petit peu d'un livre essentiel de Étienne de la Boétie qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire ». C'est un livre qui a été écrit vers 1560 environ. Étienne de la Boétie avait 16 ou 17 ans. Il s'agit d'un traité politique qui est un peu à l'image du prince de Machiavel, mais qui adopte le point de vue, disons, opposé. La Boétie se place du côté du peuple qui est asservi, celui qui a à se libérer donc de la tyrannie et de l'oppression. Et là, il pose une question qui est centrale en politique. Pourquoi les sociétés humaines se construisent-elles sous le joug d'un État qui les gouverne? Comment est-il possible qu'un ensemble d'individus aussi vaste qu'une nation puisse se soumettre à la volonté d'un seul et perdurer sous sa domination? Donc, la question de la servitude volontaire ne pose pas seulement la question de la domination, mais celle de sa persévérance et de son acceptation par le peuple. Elle cherche donc à débusquer ces mystérieuses forces spirituelles et matérielles qui poussent l'homme à accepter la soumission et parfois même à la souhaiter. On fait une pause musicale, on va écouter une pièce de Brassens qui encourage à la désobéissance, la mauvaise réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Alors, on est de retour avec Laurence. Ça nous amène donc à notre dernière invitée, Laurence Simard, qui est doctorante à l'Université Laval en géo-féminisme. Pas à l'Université Laval, c'est pas à l'Université Laval. Elle va nous dire tout à l'heure c'était quelle université, excusez-moi. Donc, elle est doctorante en géo-féminisme et elle est bloqueuse pour différents sites, dont le site Françoise Stériau, un site que je vous recommande. Bonjour, Laurence.
Bonjour, Catherine.
Et tu es doctorante à quelle université?
À l'Université Queen's, à Kingston, en Ontario.
Donc, elle est à l'Université Queen's. Laurence nous propose une réflexion sur le néolibéralisme comme rationalité de servitude volontaire. Quand tu dis néolibéralisme, Laurence, à quoi tu fais référence? Parce que c'est un mot aujourd'hui qui est employé dans toutes sortes de sens. Hein?
Oui, c'est ça, vraiment à toutes les sauces. En fait, la vision du néolibéralisme dont je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment une vision qui nous provient pas mal de Michel Foucault, qui est un philosophe français associé beaucoup au postmodernisme, oui. Historien. Donc, le néolibéralisme dont je parle, en fait, c'est une structure d'idées, finalement. C'est un ensemble de vérités, si on veut, là, un ensemble, ce qu'on appelle en anglais un « regime of truths », qui est généralement partagé et accepté dans l'univers social dans lequel on évolue en ce moment. Et c'est ça, c'est des idées qui ont... si on veut, qui ont rôle de vérité en ce moment et qui promouvoient bon, la supériorité du laisser-faire économique, des principes du libre marché et qui sont vraiment ancrés dans des valeurs morales qui sont le rationalisme économique, qui sont la compétition, qui sont l'entrepreneurialisme, l'individualisme et l'indépendance. Donc, c'est ça, je tiens vraiment à souligner que le néolibéralisme, dans ce contexte-là, c'est une rationalité. Ça va au-delà
De l'économique. Il y a des valeurs qui sont rattachées à ça. Là,
c'est ça. Puis, comme tu disais tantôt, tu sais, souvent, on va parler de néolibéralisme, mettons, pour nommer les plateformes du gouvernement Couillard et oui. autres horreurs du même genre.
Oui.
Mais, tu sais, oui, c'est en lien avec le néolibéralisme. C'est comme une expression, si on veut, de cette rationalité-là, de cette façon-là de comprendre le monde. Ça se traduit en des aspects politiques, économiques, comme mm-hmm. ces plateformes-là. Mm-hmm. Mais ça va vraiment teinter, ça va vraiment affecter l'ensemble de l'existence humaine. En fait, le néolibéralisme, on va dire, c'est une raison du monde, dans le sens que c'est une façon de comprendre le monde, c'est une façon aussi de baliser comment est-ce qu'on est capable de comprendre le monde, comment est-ce qu'on est capable d'imaginer le monde. Et donc, c'est une façon de faire le monde, si on veut. Donc, c'est ça, ça se traduit, bon, au niveau politique, économique, ça, c'est ce qu'on identifie là, de façon la plus évidente,
évidente,
si
ouais.
on veut.
C'est le côté économique. Mais ce que tu nous dis, c'est que ça va plus loin que le côté économique, le néolibéralisme.
Oui.
C'est vraiment presque une philosophie, en fait, une façon de voir le monde.
Ben, ouais, une rationalité, en fait. C'est, ouais. c'est une norme de vie.
Okay.
C'est, en fait, c'est ce qui enjoint tous et toutes, présentement, de vivre selon une compétition généralisée, de vivre selon le modèle du marché. Le modèle du marché qui en vient à régir l'ensemble de nos rapports sociaux.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est comment est-ce que le néolibéralisme vient construire, si on veut, notre expérience de notre propre subjectivité. Puis ce que j'entends par subjectivité, c'est la façon dont on se comprend nous-mêmes en tant qu'individu, dont on se voit, dont on voit qui on est et qui on est en lien avec les autres. Quel est notre rôle dans l'univers social dans lequel on se déplace? Alors, c'est plus de ça, tu sais, que je vais nous parler aujourd'hui. C'est ça aussi auquel Michel Foucault s'est attardé beaucoup. La compréhension de soi, qui est, elle aussi, ancrée autour d'une obligation morale, d'une norme morale d'incarner les valeurs néolibérales de compétitivité, de fonctionnalité économique, de succès dans ces termes-là. Donc, c'est ça, le néolibéralisme, finalement, il structure, il organise non seulement comment on est gouverné, c'est-à-dire les plateformes de nos bons gouvernements libéraux, mais aussi la conduite de nous-mêmes en tant que personnes gouvernées. Comment est-ce qu'on s'auto-gouverne, finalement?
Okay.
Fait que c'est ça le lien avec le thème de l'émission de servitude volontaire, parce que c'est quelque chose auquel on adhère volontairement, finalement.
OK. Donc, c'est comme une nouvelle normativité, si je comprends bien.
Oui.
Là. C'est que tout le monde se perçoit de la même manière.
Ben oui, en fait, c'est sûr que c'est ça. Ça mène vers une homogénéité
mm-hmm.
Du fait que la façon dont on se comporte, dont on est poussé, en fait, à se comporter, à entrer en rapport avec nous-mêmes, mais également avec les autres, est structuré autour de cette espèce de valeur-là d'individualisme et de compétition. C'est ça, c'est très normatif, comme tu dis. Mm-hmm. Je veux dire, la façon dont ce que le néolibéralisme promouvoit, finalement, c'est l'épanouissement d'un individu qui est autonome, qui est indépendant, qui est créatif, qui va vraiment tirer son épingle du jeu,
oui,
d'un monde compétitif.
C'est évidemment l'idée de la liberté qui est à la base de ça, là. C'est une liberté totale.
Mais c'est, en fait, c'est pas tant une liberté, c'est une liberté d'être cette personne-là.
OK.
C'est une liberté d'être compétitif, c'est une liberté d'être concurrentiel, c'est une liberté
c'est qu'on a pas
de
droit
se
d'être,
prendre en main.
On n'a pas le droit d'être autre chose que ça, finalement.
Non, c'est ça.
C'est pas vraiment de la liberté.
Non, parce que en fait, puis ça, c'est quand même intéressant, c'est que si on voit, par exemple, comment est-ce qu'on conçoit la citoyenneté maintenant dans un modèle néolibéral, dans un modèle libéral, qui est aussi problématique, mais la citoyenneté est vraiment basée sur l'idée de droit. OK? Donc, tu es membre d'une société, ça vient avec certains droits, tu sais, d'appartenance.
Mm-hmm.
Bon, c'est super problématique aussi, on n'entrera pas là-dedans, mais si on compare, mettons, avec un modèle néolibéral, la citoyenneté, c'est-à-dire le privilège d'entrer en relation égalitaire avec d'autres acteurs, si on veut, sociaux, est vraiment lié à cette capacité-là de performer et de renégocier toujours cette espèce de norme de compétition, de concurrence, de capacité, comme je disais tantôt, à vraiment aller tirer son épingle du jeu. C'est ça qui est considéré comme une action responsable. Être un individu, être un citoyen, une citoyenne responsable, ça implique avoir un succès économique, ça implique être capable de mener à bien ses
plans. Être compétitif, etc.
Être fonctionnel.
Toutes les nouvelles valeurs, effectivement, dont on entend beaucoup parler en ce moment.
C'est ça. Donc, ce que ça crée, évidemment, c'est que ça crée toute une catégorie de citoyens et citoyennes qui ne remplissent pas cette norme-là. Parce qu'évidemment, je veux dire, le néolibéralisme, c'est une faille incroyable de cette rationalité-là, c'est que ça peut pas marcher pour tout le monde, évidemment.
Oui, par sa normativité, ça crée de l'exclusion, automatiquement.
Ça crée l'exclusion de toutes celles et ceux qui, finalement, ne mettent pas, n'incarnent pas ces valeurs-là de succès économique, d'autonomie basée sur l'autonomie financière, tu sais. Fait que, et pour ces personnes-là, ben évidemment, la vie est de plus en plus difficile, non seulement parce que le néolibéralisme et son espèce d'individualisme sauvage impliquent de couper dans tous les services, de vraiment réduire le système social à son minimum, mais aussi, comme on l'a vu, c'est que ça implique une divergence de plus en plus profonde envers une norme qui est d'être compétitif, de pas coûter cher, finalement. Oui. Tu sais, fait qu'on vient vraiment avoir une dérogation morale, c'est-à-dire que les gens qui ne fitent pas dans cette norme-là sont considérés comme amoraux.
Oui, c'est parce qu'il y a l'autonomie qui est la valeur première. Dans le fond, si t'es pas autonome, ben t'es un individu dysfonctionnel.
C'est ça, t'es dysfonctionnel, puis tu ne remplis pas ta responsabilité en tant qu'individu de performer, d'être compétitive, d'avoir un succès.
Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens malades, avec les gens handicapés? On se pose pas de questions là-dessus.
C'est une des grandes failles, comme je disais, du néolibéralisme, c'est que on assume que on assume que ces personnes-là vont être prises en charge par naturellement si
d'autres,
on veut,
personnes
par d'autres personnes autonomes
qui elles le sont, oui.
Qui elles le sont, puis qui remplissent justement leur obligation de responsabilité en étant des individus qui non seulement coûtent rien mais en plus ramassent le coût des autres, tu sais.
Donc, ça rappelle à la famille, en fait.
Ben, ça rappelle à la famille, oui, mais en même temps, ça le rappelle en l'invisibilisant. C'est-à-dire que la famille, la famille est centrale dans le sens que c'est sûr que elle fournit un travail qui est nécessaire à toute forme de vie, tu sais, et de vie néolibérale. C'est pas quelque chose qui est nécessairement reconnu. C'est quelque chose qu'on considère qui a lieu naturellement, finalement. Fait que c'est un des grands paradoxes. Mais en fait, sur quoi je veux, l'idée d'obéissance volontaire.
Oui, c'est ça.
C'est plutôt que le néolibéralisme va vraiment articuler l'individu comme étant responsable d'incarner le bien commun, c'est-à-dire cette espèce de succès-là économique, de ne pas coûter cher, d'être autonome, d'être indépendant, indépendante, et d'incarner, c'est ça, les valeurs normatives de compétition, et renforce cette obligation-là à travers l'ensemble de l'univers social, incluant l'espace privé. Donc, oui, tu sais, c'est extrêmement normatif, en fait. Comme je disais tantôt, c'est la liberté d'être ces valeurs-là. C'est ça que ça représente.
Et comment ça fonctionne? Comment ça s'articule, ce néolibéralisme-là dans la société? Comment tout ça se...
Comment ça se tient? Ben en fait là c'est là que Foucault est vraiment très dadon pour nous aider à comprendre ça. C'est que le néolibéralisme, ça peut être compris vraiment comme une technique de gouvernement. C'est comme je disais tantôt, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement des gens qui sont dirigés par un pouvoir souverain, tu sais, de dire OK, toi tu fais ça. C'est plutôt des techniques, des éléments qui visent à la conduite de la conduite. Si on veut, tu sais, qui viennent vraiment disséminer le pouvoir à travers bon, l'ensemble de l'univers social mm-hmm. pour que ce pouvoir-là soit ensuite de ça internalisé, pour que les gens mènent leur conduite de façon à incarner la norme. OK? C'est la gouvernementalité, c'est le terme que Foucault utilise. C'est vraiment lié avec l'idée de liberté, justement, mais pas en opposition. Tu n'as pas le pouvoir en opposition à la liberté. C'est que la liberté elle-même est fondamentale à l'idée de pouvoir. L'espace de liberté que les gens ont est vraiment critique au déploiement de cette espèce de gouvernement-là, de cet auto-gouvernement-là. T'sais, on joue avec l'espace de liberté que les gens ont pour que les gens se conforment d'eux-mêmes et d'elles-mêmes aux normes qu'on veut
avoir. Moi, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est par exemple quand on dit aux gens qui sont responsables de leur obésité ou de leur maladie,
ils font pas
assez d'exercice, ils mangent mal.
Tout à fait.
À côté de ça, on est entouré de produits dans l'épicerie qui sont des produits qui sont pas bons pour la santé, en fait. Mais c'est pas le système qui est en cause, c'est l'individu qui sait pas se contrôler lui-même.
Ouais, ben c'est qu'on personnalise, comme tu dis, on personnalise énormément les expériences du vécu des gens. C'est-à-dire que l'idée, cette espèce de norme-là de compétition puis de fonctionnalité indépendante, puis quand je dis indépendante, je parle au point de vue financier, là.
Oui.
Ben, elle implique que l'individu est construit comme une personne rationnelle, comme une personne qui est équipée pour faire des choix, qui peut être tout ce qu'il ou elle décide d'être, dans le fond. Donc, si... la personne devient vraiment responsable de l'ensemble des éléments de sa vie, puis de l'ensemble de ses parcours de vie.
Oui.
Donc, si pour une raison ou pour une autre, on a un échec, si pour une raison ou pour une autre, on perçoit un échec, comme par exemple, j'ai pris 20 livres ou quoi que ce soit, tu sais, là, tu donnais l'exemple du poids, mais ça se traduit dans beaucoup d'autres domaines qui sont aussi très, très critiques, comme par exemple la précarité financière, comme par exemple le fait d'expérimenter des problématiques liées à la santé mentale. Ben c'est qu'on considère que c'est tout le temps une question de choix. T'sais, c'est une question de choix, c'est une question d'orientation personnelle, c'est un trait. Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui ont les traits d'autonomie. Ce sont des gens qui ont une bonne volonté, tu sais, qui vont vraiment là, mettre la roue à l'épaule à la roue, en tout cas.
Oui, l'épaule à la roue.
L'épaule à la roue. Tu sais, alors que, ben, on crée, c'est ça, une catégorie d'individus qui, eux et elles, sont considérés comme étant, ils ont moins, tu sais, ils ont moins d'autonomie, ils sont moins créatifs, ils sont plus ticounes, tu sais. Puis c'est pour ça que ils sont dans ces situations-là.
Et jusqu'à quel point ces valeurs-là néolibérales se transmettent dans l'éducation des gens? Est-ce que ça se transmet par l'école? Est-ce que ça se transmet seulement par la télévision? Puis ou ça se transmet par des mesures gouvernementales? Comment?
Ben en fait, ça se transmet. Je te dirais que ça se transmet par vraiment l'ensemble.
Juste l'économie.
Des dispositifs qu'on voit présentement, que ça soit comme par exemple les coupes au système. Mettons, si je te donne l'exemple, c'est un exemple qui a été quand même étudié beaucoup par rapport justement, tu parlais de famille tantôt, le soin aux familles. Si on voit dans un moment néolibéral comme on a présentement, ça implique énormément, comme je disais, de coupes aux services publics qui affectent les capacités des familles qui sont souvent déjà précaires. Mm-hmm. Maintenant, ce qu'on va faire en lien avec ça, c'est que on va avoir tendance à ajuster aussi les services qu'on offre, les services qui restent, pour que ça soit des services en fait de coaching. C'est ce qu'on appelle des services de pour bâtir la capacité des gens.
Oui.
Donc au lieu de dire je te donne des sous ou je te donne accès à des ressources, je vais te montrer comment faire.
Oui, c'est ça.
Je vais te montrer comment être une personne.
Et c'est de cette manière-là qu'on transmet les valeurs et ces nouveaux comportements-là.
Puis en fait, ce qui est
dans les services sociaux, c'est très très présent ça.
C'est très très présent, c'est de plus en plus présent. Puis ce qui est intéressant en fait, c'est que ça participe à un gouffre, dans le fond, des inégalités, puisque les personnes qui sont positionnées dans des positions plus vulnérables, qui sont possibles, qui sont situés, si on veut, de façon plus vulnérable socialement, que ça soit par précarité financière, que ça soit par barrage culturel, que ça soit au niveau de la fonctionnalité physique, la fonctionnalité émotive, fonctionnalité mentale. Bon, ben évidemment, leur divergence de la norme d'autonomie, d'indépendance financière est d'autant plus grande. Et toute cette espèce d'autoflagellation-là, liée à « je dois me conformer à la norme, c'est mon obligation morale, et si je n'y arrive pas, c'est dû à un trait, c'est dû à une déficience de ma part. » Donc, ça, ça augmente, si on veut, l'expérience de souffrance, l'expérience de détresse ressentie. Donc, d'une part, t'as moins de ressources, et d'autre part, t'as l'espèce de blâme moral et la dévalorisation sociale qui est associée à ne pas fonctionner de cette façon-là, ne pas fitter dans cette norme-là d'efficacité, tu sais. Puis aussi, ce que ça crée, c'est évidemment ça mine la solidarité collective. Parce que pendant que moi, je suis en train de me blâmer, de me dire, hey, je suis vraiment loser de pas être capable de gérer mes enfants, ma job, si ça, de pas avoir d'avoir de la misère à payer mon loyer, puis maudit, pourquoi je suis la géo-féministe, j'aurais dû faire de la comptabilité à la place, j'aurais une bien meilleure job, puis tu sais, pendant que je suis en train de me dire, ok, c'est de ma faute si je n'arrive pas à puis ça se traduit, c'est ça, de toutes sortes de façons, comme tu parlais tantôt d'obésité, tu sais, ah mon Dieu, pourquoi j'ai mangé la pizza hier, il va falloir que je fasse, je sais pas combien de minutes sur le tapis roulant pour rattraper cette faute morale que j'ai faite. Mais tout ça, c'est que ça m'empêche, pendant que je fais ça, ça m'empêche d'identifier qu'est-ce qui est socialement construit aussi dans mon expérience, puis qu'est-ce qui est partagé, si ça se trouve, par l'autre personne qui est en situation de précarité, puis de créer vraiment, tu sais, une solidarité basée sur la reconnaissance mutuelle. Ouais. Mais là, on est dans un esprit de compétition. Fait que Puis comme tu disais tantôt, ben c'est extrêmement normatif parce que dans cet esprit-là de compétition, ce qui est promu, c'est l'homogénéité. Tu sais, la différence devient pathologique.
Oui. Et en t'écoutant, je me rends compte que c'est une véritable culture, en fait, qui est en train de se mettre en place.
Ben, c'est plus qu'une culture, comme je te dis, c'est une rationalité. C'est comment est-ce qu'on peut comprendre le monde.
Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour résister à ça, pour désobéir à ça? Est-ce qu'il y a des clés, il y a des...
Ben en fait, c'est intéressant. Foucault parlait de l'éthique de soi comme une façon de résister, si on veut, à la gouvernementalité. C'est super problématique parce que ça s'inscrit dans énormément de dynamique d'oppression, tu sais, par rapport au genre, par rapport, tu sais, à la racialisation, par rapport justement, tu sais, au niveau de la fonctionnalité. Mais ce qui la plupart des gens qui écrivent, mettons, sur la résistance, comme ça, vont essayer de promouvoir un rapport à soi qui est différent, tu sais, puis ça rejoint un petit peu ce que Oscar parlait tantôt, mais c'est l'idée de...
C'est ce que je voulais dire, penser par soi-même.
Mais c'est pas juste de penser par soi-même, mais en fait, c'est plus d'essayer d'établir une espèce de solidarité envers soi-même, tu sais, pour créer des espaces de subjectivité qui sont différentes.
Oui.
C'est-à-dire pour essayer d'inventer une façon de se concevoir soi et de concevoir son rôle dans le monde qui est différent. Puis là, c'est ça, on rejoint beaucoup Judith Butler, l'idée de performativité, tu sais. Comment est-ce que je peux faire une espèce de mascarade ou une espèce de performance carnavalesque qui renverse, si on veut, l'espèce de couche de sens qui est appliquée sur mes actions,
oui.
Tu sais, puis de dire, OK, non, au lieu d'être cette espèce de taré amoral là, ben tu sais, je deviens quelque chose d'autre parce que je me permets de performer le genre ou performer l'économie différemment. Tu sais.
Merci beaucoup, Laurence. C'est tout le temps qu'on avait. C'est des belles suggestions pour nous faire réfléchir sur la culture de performance et de compétitivité dans laquelle on baigne maintenant continuellement. Merci. Alors voilà, on termine avec, on va écouter un groupe musical qui va nous permettre de terminer cette émission sur une bonne note. Alors je vais tout de suite faire les remerciements parce que je ne reviendrai pas au studio, on va se quitter sur la musique. Je remercie donc Gab Paquette pour la composition du thème de l'émission. Je remercie David, notre libraire et hôte, qui est venu nous dire quelques mots au micro ce soir. Je remercie mes invités, Simon Richard, Oscar Moya et Laurence Simard. Merci à Big Nick, bien sûr, pour le choix musical qu'il a fait ce soir. C'est Big Nick qui a fait notre choix musical. Merci pour la mise en onde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de La Voix de la librairie sur le site de Radio Fiat Lux en podcast. Et finalement, merci à CKIA qui diffuse nos émissions le mercredi à 15h30. Je vais parler un petit peu du groupe qu'on va entendre. Il s'appelle les Ramblin' Bastards. C'est un groupe qui est partiellement composé de personnes qui viennent de l'Alberta, en Annick, en tout cas qui vient de l'Alberta, qui est venu passer l'été avec nous à Québec. Ils vont être le 2 juin au Scanner. Ils vont faire la première partie de Deep Insider. Ils vont être aussi le 12 juin au Scanner et le 4 juillet à l'autre zone. Et le 20 juillet, ils vont être à la fête de la musique au Bateau de nuit, le Bateau de nuit qui est juste ici, que tout le monde connaît sur la rue Saint-Jean. C'est un folk rock and roll. Et si on est prêt, est-ce qu'on est prêt? Oui? Alors, on vous écoute.
Merci.
Merci.
All right.
C'est fun. T'as pas de fin.